Je suis heureux d'être parmi vous. Et je connais quelques têtes, beaucoup de têtes, et j'en suis très très heureux. Et c'est une joie, c'est un plaisir de pouvoir voir d'autres. Et celui qui s'est engagé dans les eaux du baptême, c'est une joie de voir cela, parce qu'il y a de la joie dans le ciel, pour un seul qui se repent. Que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Faut-il que je commence pour préciser comment je suis venu au Seigneur en deux mots? Issu de famille musulmane, d'une famille nombreuse, l'aîné d'une famille, j'ai entendu parler de Jésus. Pour moi, c'est pour les chrétiens, Jésus, mais pas pour les musulmans. Jusqu'au jour où je me suis posé des questions. Et j'ai rencontré celui qui m'a parlé de Jésus. Il m'a dit, tu es un pécheur. Ah bon? Bah oui, ça je sais, dans la religion musulmane. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est le fait de dire que chaque être humain est pécheur. Que ce soit petit ou gros péché, on est tous des pécheurs. Et qu'on a besoin de grâce. Et à ce moment-là, j'ai compris enfin ce qu'il me voulait me dire par rapport à Jésus qui est venu mourir sur la croix pour tous les êtres humains. Ah bon? Mais je suis devant un dilemme. Qu'est-ce que je vais faire? Si j'accepte Jésus, je vais me faire persécuter. Je vais avoir des problèmes avec ma famille. Mais si j'accepte pas, c'est vrai que je vais être bien pendant 70 ans. Peut-être 80 ans. Mais je vais être perdu pour l'éternité. Et j'avais compris que Jésus était la bouée de sauvetage. C'était mon secours pour aller au paradis, puisque je savais que le paradis existait. Dans l'islam, on le dit. Donc, c'est Jésus qui est mon sauveur. C'est lui qui m'accorde d'aller au paradis. Ah, bon, ben alors là, le dilemme est... Mais quitte à mourir, quitte à être persécuté, bon, ben, je préfère accepter Jésus, mais d'être sauvé pour l'éternité. Donc j'ai dit, j'accepte de passer par là si je devais avoir des problèmes, bon, ben, au moins j'étais sauvé. J'ai accepté ce soir-là, Jésus. Je suis rentré heureux et depuis, j'ai jamais perdu cette joie du Seigneur. Et il est toujours là. Il est vrai que j'ai eu des combats. Il est vrai que mes parents, ça n'a pas été simple. Mais garder la foi dans le Seigneur, c'est quelque chose de formidable. Et le Seigneur a mis sa main, même dans les moments difficiles. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, avec mes parents, il y a eu un respect. Ils ne sont pas encore convertis, mais il y a déjà ma sœur qui est convertie. C'est déjà ça. Et ça va poursuivre. Et je prie depuis ce temps-là pour le salut de mes parents. Et que le Seigneur vraiment soit glorifié. Voilà un peu le cheminement. Après, j'ai cheminé dans le Nord. J'ai vécu dans le Nord en tout et pour tout 37 ans. C'est ça? 37 ans. Non, un peu plus, bon, qu'importe. Mais j'ai passé la majeure partie de ma vie dans le Nord. Et le Seigneur m'a sauvé. Je suis content. Maintenant, on va s'en remettre au Seigneur pour lui demander sa grâce, que sa parole, cette parole, cette semence germe, soit bien plantée en nous et puisse produire son fruit en son temps, mais qu'on puisse se laisser toucher par la parole. Alors Seigneur Jésus, bien-aimé, tu es un Dieu grand, un Dieu d'amour qui nous touche. Et tu nous transformes de jour en jour. On n'est pas parfait, certes. Mais tu nous donnes de tendre à la perfection en vue de t'honorer chaque jour. Seigneur, cette parole qui va être partagée, je le dis, Seigneur, avec simplicité. Que tu puisses, Seigneur, nous toucher et nous faire grandir en toi. Merci de nous rendre sensibles à ta voix. Au nom de Jésus, Père, amen. Je vous invite à lire un texte dans Matthieu, et c'est vrai que c'est bizarre, mais c'est providentiel, ça correspond au moment du baptême. Alors c'est Matthieu 3, versets 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et un autre texte, dans Matthieu chapitre 17, versets 1 à 5, six jours après, plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmena sur une haute montagne à l'écart. Il fut transfiguré devant eux, son visage se mit à resplendir comme le soleil, ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière, et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu es d'accord, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Pendant qu'ils parlaient ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa et une voix en sortit qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie, écoutez-le. » En entendant cette voix, les disciples furent remplis de terreur et tombèrent le visage contre terre. Mais Jésus s'approcha et posa la main sur eux en disant, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Ça, c'est selon la traduction du Semeur. Et il est dans la traduction du second, c'est concernant ce point sur lequel nous allons nous appuyer. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » C'est sur cette parole que nous allons un peu nous appuyer, nous arrêter. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » N'est-ce pas une parole extraordinaire? Dieu le Père va parler de son Fils, une façon pour lui d'évangéliser. « Vous qui êtes là, voici mon Fils. » Mais ce n'est pas sur ce point. Juste ce point-là, mais d'une certaine manière, parallèlement à chacun, pour chacun de nous, ne ferions-nous pas la même chose en présentant autour de nous « Coucou, Jésus, c'est le Fils de Dieu !» C'est lui qu'il faut écouter. Alors, nous sommes conscients que c'est une parole d'une très grande importance, sur lequel il nous faut écouter et nous appuyer. Alors, on sait quelque chose par rapport aux religions diverses, notamment une que vous connaissez, qui n'accepte pas que Jésus soit le Fils de Dieu. Ça, ils sont en train de combattre, et ils essayent, autant les imams que les islamologues intellectuels, de donner toutes sortes d'interprétations pour essayer de traduire ce que l'Évangile dit. Soit qu'on dit l'Évangile est falsifié, ou soit qu'on dit ce Fils n'est pas à prendre dans ce sens-là. Voilà, on peut essayer de trouver toutes sortes de choses. Mais pour nous, c'est une réalité. Le Père parle de son Fils comme celui qu'il est vraiment. Et on le voit dans un texte dans l'Ancien Testament, psaume 2, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi ce que tu veux et je te donnerai une nation pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. » Alors, à deux reprises, Dieu parle de cette manière. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, comme vous l'avez entendu. » Alors, j'aimerais que nous puissions nous arrêter sur « en qui j'ai mis tout mon affection ». C'est sur ce mot-là. Et dans le texte grec, on trouve, par exemple, si on veut faire du mot à mot, c'est « en qui je me complus ». « En qui je me plus ». Et dans le texte qui est utilisé dans 2 Pierre 1,17, c'est « j'ai en qui j'ai pris plaisir ou j'ai bon plaisir. Plaisir. En qui j'ai mis toute mon affection. Alors, ce mot, en fait, en grec, a un sens large, qui veut dire à la fois volonté et choix. Bonne volonté, bienveillante intention, bienveillance, bonne grâce. On le trouve, par exemple, avec la reconnaissance de Jésus au Père lorsqu'il s'exprime en disant « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Verbe vouloir. Et aussi, ce mot a le sens de délice, de plaisir, satisfaction. Et encore, pour terminer, il a le sens de désir, vœux, souhait. Et ce qui nous intéresse ce matin, c'est le mot utilisé pour notre réflexion, c'est qui touche au plaisir de Dieu. Alors le terme plaisir, on le définit par un état agréable, durable, que procure la satisfaction d'un besoin, d'un désir de, ou l'accomplissement d'une activité gratifiante. Les maris vont offrir des fleurs à leur épouse. Qu'est-ce que c'est ? C'est faire plaisir. Et comment c'est reçu ? Ben, ça, c'est agréable pour celle qui reçoit. Et je me souviens de quelqu'un qu'on avait attendu à la gare, un frère de l'église de Roubaix à l'époque, et qui m'a dit « Rejoins-moi, on va aller accueillir une personne que je... » qui sûrement va être mon épouse. Donc on s'était entendu qu'on se retrouve à la gare. Et quand je suis arrivé à la gare, je pensais qu'il allait venir avec un bouquet de fleurs. Vous savez avec quoi il est arrivé ? Avec un savon. J'ai trouvé ça particulier. Mais bon, il ne savait pas, donc il a voulu faire plaisir. Pour lui, à ses yeux, ça, pour faire plaisir. Mais bien sûr, pour celle qui a reçu, je lui ai parlé une fois, elle m'a dit « Oh non, non, j'ai vu l'intention. » Et donc, faire plaisir, c'est ressentir une sensation de bien-être. Un sentiment de plaisir. Et dans la Bible, ce terme s'applique à Dieu qui prend plaisir au bonheur de son peuple. Je fais grâce des versets de la Bible. Mais qui déteste l'homme impie. Donc là, c'est le contraire. Et ses sacrifices vides de sens ou le mal qu'il commet. Dieu n'a pas plaisir de voir son peuple le déshonorer ou faire des choses qui ne lui plaisent pas. Il n'aime pas le jeûne superficiel, mais qui déteste l'homme impie. Il prend plaisir à la bonté, à la miséricorde. Il aime faire le bien. L'homme fidèle fait plaisir à son Dieu. Il a de la joie à observer la loi et les commandements. Tiens, ça vous fait penser à quelque chose ? Est-ce que nous aimons faire plaisir à notre Dieu ? C'est dans ce sens. Le méchant se laisse étouffer par les plaisirs de la vie. Il aime le plaisir plus que Dieu. Le plaisir n'implique pas nécessairement une action conséquente. Dans le Nouveau Testament, Hérode avait le plaisir à écouter qui ? Jean-Baptiste. Même si ça le dérangeait parce qu'il disait la vérité. Il écoutait avec plaisir ou volontiers. Alors Jésus qui prêchait, les gens trouvaient plaisir d'écouter Jésus. Alors permettez-moi de vous poser une question, ou plutôt des questions. Quel est le principal plaisir de Dieu lui-même ? Est-ce de lui obéir ? Est-ce de l'écouter ? Est-ce de lire sa parole ? Est-ce de lui rendre un bon témoignage sur la terre ? Est-ce de proclamer l'évangile autour de soi? Est-ce d'être des adorateurs en esprit et en vérité? Est-ce de l'aimer et de s'aimer les uns les autres? Oui, on pourrait dire c'est tout cela. Seulement, il y a une chose qui surpasse tout ce que l'on peut faire pour plaire à Dieu. Savez-vous laquelle? C'est le seul sentiment de plaisir que Dieu puisse ressentir au-delà de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons faire pour lui. C'est la personne même de Jésus. Lui. Et c'est sur lui que nous devons nous appuyer, et c'est en le regardant lui, uniquement lui. Si l'on dit, on commence à dire, moi je, tu vois Seigneur ce que j'ai fait, hein? Quand Dieu parle de son fils, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu nous regarde seulement qu'au travers de son Fils. Et c'est en cela que ça lui fait plaisir. Et nous, chacun de nous, nous avons une indication précise, extraordinaire, de ce que Dieu, le Père, désire de nous. C'est qu'on regarde à son Fils. Et c'est en regardant à son Fils qu'on fait véritablement plaisir et non pas à nous. C'est pour ça que tout à l'heure, Bruno disait, je vois en toi le caractère de Christ. Et ce que nous sommes invités à vivre les uns les autres, c'est que nous nous voyons les uns les autres. Et voilà, je vois Jésus là, je vois Jésus là, je vois Jésus là, je vois Jésus là. Que nous nous voyons, que nous voyons Jésus. Et c'est en regardant à Jésus que nous nous voyons de la meilleure façon qui soit. Même si nous ne sommes pas encore arrivés. Alléluia. Alors, pour appuyer encore plus profondément avec la parole de Dieu de ce que je viens de vous dire, et c'est d'une intensité extraordinaire, je vais lire pour vous Éphésiens 1, verset 4. À 14, là, c'est un texte formidable. Voilà ce qui est dit. En lui, nous, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qui s'était proposé en lui. Pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Il poursuit ce texte extraordinaire. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Voilà une vérité puissante de l'unique raison qui fait le plaisir absolu de Dieu, notre Père. En lui, par Jésus-Christ, en son bien-aimé, réunir sous un seul chef, le Christ. Il n'existe donc aucune autre voie par laquelle nous pouvons plaire à Dieu. Si Christ n'est pas fondement de notre foi, Rien n'a de valeur aux yeux de Dieu le Père. Je me souviens de quelqu'un qui disait, oui, mais mon mari est gentil. Et pas au Seigneur. Oui, il est gentil, il est bien, il va quand même être sauvé. Moi, je suis chrétienne, lui, il ne l'est pas, mais comme... Mais je dis, je ne peux pas traduire autrement que ce qui est dit dans la parole. Je lui dis, mais madame, il est perdu sans le Christ. Il est perdu, aussi gentil qu'il soit. Parce qu'il n'aura pas reçu Jésus-Christ, à moins d'une révélation particulière à un moment donné. Mais s'il ne reçoit pas, on ne peut pas faire de sentiment. Oh, il va être gentil. Il est gentil. Pas du tout. Si Christ n'est pas là, il n'y a pas de valeur. Et Dieu ne reçoit dans son royaume que ceux qui ont accepté son Fils. Point. Nous sommes donc heureux de pouvoir dire que c'est Dieu qui nous a donné la joie d'appartenir à Christ et qui nous donne la joie de le servir. Alors, quelles que soient les plus belles œuvres que nous pourrions accomplir, si elles sont faites pour lui, en son nom, et que véritablement nous le faisons sans retirer pour nous une quelconque gloire, ces œuvres auront de la valeur pour le Seigneur. Par contre, si nous nous glorifions de ce que nous faisons en son nom, « Ah, c'est super ce que je fais, hein, je... » Pour en satisfaire quoi ? Mon orgueil. Et vous savez-vous que nous avons à tous changer. Nous avons dans notre vieille nature quoi ? L'orgueil, l'égoïsme, toutes sortes de jalousie, toutes sortes de choses. Et quand nous faisons quelque chose pour le Seigneur, que vous recevez des félicitations d'une certaine manière, c'est bien ce que tu as fait, waouh, c'est super, oh, le Seigneur m'a utilisé pour guérir, pour ceci ou pour cela. Vous dites toujours, merci Seigneur, parce que c'est lui qui l'a fait. Et quand on se retrouve dans sa relation avec le Seigneur, Seigneur, j'ai entendu de bonnes choses. Tu m'as utilisé pour ceci, tu m'as utilisé pour cela. Mais je ne veux en aucune manière prendre la gloire qui te revient. Ça t'appartient. Donc, Seigneur, merci de m'avoir utilisé, mais je te remercie pour ce qui s'est passé à travers ma vie, mais je ne veux pas m'octroyer la gloire. Savez-vous que beaucoup sont tombés à cause de ça ? Ah, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Comment dire ? Enlevons de notre langage le moi ou le je. On peut le dire d'une certaine manière, mais il faut avoir toujours une sagesse, d'avoir un langage équilibré et de dire « à Jésus soit la gloire ». Oh, il a tout fait. Si je suis aujourd'hui là, c'est parce que c'est l'effet de la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi cela nous amène tous les uns les autres à glorifier Jésus. Merci Seigneur pour les frères et sœurs. Merci pour ce que tu as fait à travers ce frère, cette sœur. C'est beau ce que tu as fait. Pour que comme les chevilles comme ça ne vont pas gonfler. Ça nous reste humble. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Et savez-vous, juste encore une entre parenthèses, quand il est parlé dans la Bible de serviteur, on est content de voir tous les textes de serviteur. C'est beau, hein ? Sommes serviteurs de ceci, serviteurs de cela. Tous les textes du Nouveau Testament, c'est beau. Enlever ces mots, la véritable traduction, c'est doulos. Et vous savez ce que ça veut dire, doulos ? Esclave. Nous sommes des esclaves de Jésus-Christ. Bien sûr que c'est un terme qu'on aborde, qu'on n'aime pas. Serviteur, oui, parce que c'est plus gratifiant. Le serviteur, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, le serviteur reçoit d'une certaine manière un salaire, il est gratifié. Mais l'esclave, ça appartient au maître. L'esclave, c'est le maître. On est soumis au maître. Et quand on fait les choses, on le fait que pour le maître. Vous n'avez fait ce que vous aviez eu à faire. Point. Et comme ça, ça nous permet de rester dans les normes. Et pour, justement, pourquoi ? Pour que Jésus soit toujours glorifié et c'est lui le maître. Et c'est vrai que le problème de notre vieille nature, c'est toujours cette tendance à dire « Ah, j'ai quand même fait. » Non, non. Restons toujours avec l'esprit de ce que le Seigneur nous dit. celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, toute notre affection doit pour aller pour Jésus. Merci Seigneur de m'avoir utilisé pour faire ce que toi tu me demandes. Mais je veux le faire avec joie, bien sûr. Alléluia. Et maintenant, ce regard de ce texte, sous le regard de Jésus, quand il nous regarde, nous. Voici mes témoins en qui j'ai mis toute mon affection, d'une certaine manière. Si on pouvait juste penser, mais qu'est-ce que Jésus nous dit à nous ? Voilà des véritables témoins qui me glorifient. Et c'est dans cette direction que nous allons. Le fait de faire plaisir, ou le plaisir de faire plaisir, eh bien, c'est ce à quoi nous sommes appelés, frères et sœurs, à faire plaisir à notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui doit nous animer, non pour notre satisfaction, mais c'est pour la satisfaction de la gloire de Dieu, notre Père et du Fils Jésus-Christ. On dit grâce à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, et parce que le Christ demeure en nous et que nous voulons faire plaisir à Jésus. Alors voici un texte dans l'Ancien Testament, Ésaïe 42, verset 1, il dit « Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations. » Dieu prend tout son plaisir en son Fils avant la création du monde. Il y a un autre texte qui dit dans Proverbes, chapitre 8, versets 27 à 30. « Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il traça les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais de jour en jour ses délices, jouant devant lui tout le temps. » Dieu prend plaisir en son élu, c'est-à-dire en son Messie. Une autre question. Est-il possible de prendre son plaisir en Christ comme Dieu le fait? Bien sûr que oui. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. Et lorsque Jésus est véritablement en nous et que nous avons tout renoncé pour le Christ et que nous aimons fortement le Seigneur, eh bien, qu'est-ce que Dieu le Père fait? Il prend plaisir en nous. Celui qui m'aime me suit. Celui qui m'honore, honore celui qui m'a envoyé. Et voyez là, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a une unité extraordinaire. Eh bien, nous sommes aussi... Nous bénéficions aussi de cette relation de faire plaisir au Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, merci de m'avoir aidé à t'honorer par mon témoignage, mais en même temps, à t'honorer pendant quelle situation? Seulement quand tout va bien. Eh bien, nous pouvons faire plaisir à Jésus même quand ça va mal, quand nous sommes devant des situations difficiles, quand nous sommes devant des situations de tentation. Aujourd'hui, j'ai de la tristesse pour des frères, des sœurs qui tombent. Ça ne veut pas dire que je suis plus fort qu'eux, Niette. Ça veut dire, chaque jour, nous devons nous en remettre au Seigneur pour dire, Seigneur, je ne veux pas tomber, s'il te plaît, garde-moi en toi. Une sœur un jour me disait, moi, jamais je quitterai le Seigneur. J'ai dit, ma sœur, s'il te plaît, dis pas jamais, mais compte sur le Seigneur pour que tu restes fidèle, pour lui faire plaisir. Et quand on lit la parole de Dieu, en fait, quand on veut obéir pour faire plaisir à Jésus, c'est de vivre là ce qu'il nous demande, avec joie. Seigneur, je sais que tu me demandes de renoncer à ça, de renoncer à ça, de renoncer à ça. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais par amour pour toi, je veux t'honorer, donc je ne veux pas tomber, je ne veux pas tomber dans ça. Donc tu vas me donner ce qui est nécessaire. Dieu nous donne ce qui contribue à la force et à l'autorité par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Exemple, ceux qui ont des pensées mauvaises, qui ont un sentiment de rejet ou toutes sortes de pensées qui viennent pour les empêcher de grandir dans la foi ou de rester dans... Eh bien, le Seigneur, il nous donne ce qui contribue à l'autorité, ce qui contribue à la vie. Et quand on obéit au Seigneur, ce n'est pas la loi. Parce qu'on se dit, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Non, c'est, Seigneur, je sais que tu n'aimes pas ça, ça, ça. Eh bien, Seigneur, par amour pour toi, je vais t'obéir. Donc, ça lui fait plaisir. Alors, quand Jésus nous voit en train de lui faire plaisir, qu'est-ce que ça fait? Le Père, le Fils et Saint-Esprit se mettent en mouvement en nous et nous donnent quoi? De la joie, de la paix, et on est bien. Vraiment bien. Assis sur un, comment dire, établi sur du socle. C'est vrai qu'il peut y avoir des soubresauts de ceci, de cela, mais on reste solide. Les justes croissent comme quoi? Comme des palmiers, mais toujours parce qu'ils font plaisir. Et vous regardez le chapitre 5 des psaumes, où il est parlé de la différence entre ceux qui ne sont pas hein, et ceux qui sont dans le Seigneur. Alors je disais tout à l'heure, Seigneur, protège-nous, garde-nous. Nous voulons davantage te faire plaisir pour que justement nous ne tombions pas dans des défaites. Il nous donne son autorité pour avancer, même si nous tombons, il nous relève, mais il nous donnera d'être stable en lui. Alors c'est une magnifique révélation spirituelle. On peut puiser l'amour de Dieu dans la même source que celui qui a créé le bonheur. Dieu est la source de notre bonheur. Et alors quand on parle de bonheur, qu'est-ce qu'on trouve dans le mot bonheur? Le mot plaisir. Ça fait du bien, c'est un état de satisfaction intérieure. Joie immense, paix, etc. Alors comment donc faisons-nous plaisir à Jésus? Et qu'a-t-il dit dans sa parole? Celui qui m'aime me suit. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Croyez-vous que vous connaissez encore Jésus? Vous connaissez Jésus? Il nous donne les bases pour le connaître. Mais le Seigneur nous met à l'épreuve pour voir si vraiment nous l'aimons. Et c'est quand nous sommes devant des situations difficiles, quand nous sommes devant des tentations, c'est là qu'il veut nous voir. Ce n'est pas seulement quand on est ensemble. C'est quand on est tout seul. Et c'est dans cette partie de solitude qu'il veut nous voir véritablement notre amour pour lui, pour que justement nous puissions connaître davantage Jésus. Nous ne connaissons pas encore le Seigneur parfaitement. Nous le connaîtrons quand on sera dans sa présence, mais nous tendons vers cette connaissance, nous grandissons dans la connaissance de Jésus. Le Jésus que j'ai appris quand j'étais jeune converti et le Jésus que j'apprends aujourd'hui, waouh, magnifique. Il se fait de plus en plus connaître à moi et il veut me faire connaître aussi son Père. Et il y a une relation toujours, le Père, le Fils. Et il y a toujours cette dimension de communication, de relation intime, d'unité magnifique. Et c'est que nous devons chercher les uns les autres, chacun individuellement. C'est cette relation de dire, Seigneur, je veux faire plaisir. Pas à mon orgueil, mais à toi. Merci de me transformer. Que de plus en plus je diminue et que lui croisse. Faire plaisir à Jésus, c'est de l'aimer. On dit j'aime Dieu, j'aime Jésus, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime ce que Dieu me demande d'aimer. Alors le premier endroit où nous pouvons dire, voir si nous aimons Jésus, si nous voulons faire plaisir à Jésus, c'est où? Famille. C'est là que se vérifie le fait d'aimer Jésus. C'est dans la famille. Je connais quelqu'un qui disait, il ne faut pas dire à l'église hein, ce qui s'est passé entre nous. Il ne faut pas dire au pasteur. Ah, dommage. Je connaissais quelqu'un, bon, il y en a plusieurs, mais il y en a un de près, de la famille. Hein. Il disait, il ne faut pas le dire parce que mon ministère va prendre un coup. Dommage, il n'a rien compris. C'est dans la famille, de la manière dont on vit. Il y a par exemple les hommes qui peuvent dénigrer leurs femmes. Ils les écrasent. Et après l'église comme ça, arrêtez. Dieu ne se laisse pas tromper. Il ne se laisse pas tromper. Tu veux m'honorer, regarde d'abord ta famille. Va te réconcilier avec ta famille. J'extrapole là, je caricature. Va d'abord te réconcilier avec ta femme et lui demander pardon parce que tu l'as dénigré. Ou alors la femme qui dénigre son mari, qui l'écrase. Oh Seigneur, ça commence avec la famille. Et c'est là qu'on peut vérifier si l'homme ou la femme aiment leur Seigneur. Alors comme... ou alors le père qui dénigre ou qui donne une mauvaise attitude vis-à-vis de ses enfants. Hein? Ça peut être... il brime les enfants, il opprime les enfants de façon psychologique. Tu es bon à rien, tu seras rien, etc. Ou alors on lui fait des choses pas terribles. Alors... les enfants opprimés psychologiquement ou physiquement, ou les deux, est-ce que ces pères de famille font plaisir à Jésus? Non. Non. On ne peut pas faire la distinction entre l'Église et le royaume de Dieu ou la famille et que Dieu ne regarde pas tout ça. Si, si, il regarde. Cherchons impérativement à faire plaisir à Jésus dans ce qu'il nous a demandé. Acceptons de changer là où il nous demande de notre transformation. Et donc, comme je disais tout à l'heure, est-ce que faire plaisir à Jésus, c'est faire que des choses plaisantes? Jésus est passé par où? Par la croix? Eh bien, il faisait plaisir à son Père parce qu'il devait passer par là. Alors, le sacrifice agréable à Dieu, par rapport à l'Ancien Testament, avec les animaux, etc. Le sacrifice de Jésus à la croix suffit pour nous sauver. Et c'est aussi un cadeau que Dieu nous accorde. C'est un cadeau. Est-ce que nous voulons faire plaisir à Jésus, frères et sœurs? Et c'est de cela qu'il s'agit. Alors acceptons cette parole de Jésus parlant à ses disciples en disant: si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que nous aimons Jésus? Est-ce que nous lui faisons plaisir? Et donc, quand c'est vécu de cette manière, on va lui obéir tout volontiers, l'écouter, lire sa parole, lui rendre témoignage sur la terre, proclamer son évangile, être des adorateurs en esprit, en vérité, et enfin aimer son prochain. Tout ce que nous venons de mentionner sera le fruit de notre amour pour le roi des rois, qui va recevoir tout ça comme quelque chose de plaisant et de plaisir. Veillons à ne pas chercher la mauvaise direction, comme font les religieux du temps de Jésus, pour montrer qu'ils sont spirituels. Ils formulaient de longues prières, ils étaient bien habillés, mais à l'intérieur de leur cœur, c'était plein de mauvaises choses. Pour nous aujourd'hui, veillons à ne pas chercher à être spirituel comme une méthode, mais de vivre sur le fondement de la foi dans le Christ. Il existe des chrétiens, malheureusement, qui font fausse route quand ils se comparent à d'autres chrétiens dans le but de chercher à être le plus spirituel possible. Par exemple, si... c'est très bien les temps de jeûne que nous prenons devant le Seigneur, les temps de prière, la recherche de sa volonté, le temps de laisser le Seigneur vraiment. Ça, c'est bon. Mais il faut toujours regarder notre cœur. Toujours. Quel est le but? Est-ce que c'est vraiment pour dire, Seigneur, oui, je te donne ce temps pour toi, que tu sois glorifié. Oui, Seigneur, je fais ça. Je jeûne, c'est un temps de jeûne, mais c'est pour toi, je sais. Oh, il y a une raison, parce qu'on va chercher la face de Dieu pour ceci, on va prier pour cela, pour intercéder. Oui, mais toujours avec le regard sur notre cœur. Comment je pense à ce moment-là? Si c'est pour dire, après de tant de jeûnes et de prières, oh, maintenant, le Seigneur va obligatoirement me remplir du Saint-Esprit. Il n'est pas obligé. Mais on sait qu'il y a toujours de bons effets. Mais seulement, c'est toujours avec notre cœur. Et jamais on ne manipulera le Seigneur. Jamais. Il ne se laissera jamais manipuler. On peut faire des pieds, des mains, de louanges. Non, c'est toujours une affaire de cœur. Seigneur, c'est pour toi. Et c'est pour lui faire plaisir. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une œuvre charnelle. Il ne faut pas qu'il y ait la main de l'homme. Je me souviens d'un temps où il y avait de louanges. Je me souviens, c'était sur Tourcoing, c'était sur l'île. Un rassemblement de toutes les églises où on passait un moment dans la louange. C'était beau. Ah, c'était extraordinaire. Et on se sentait bien. Il a fallu qu'un frère, du milieu de le temps de la louange, qui commençait à dire, voilà, vous allez entrer dans la prière, etc. C'était, et nous étions déjà dans la prière. Nous étions déjà dans la louange, dans l'adoration. Nous étions déjà. Il a mis son grain de sel, charnel, comme pour conduire le peuple à la louange. Donc il a voulu prendre la place du Saint-Esprit pour, malheureusement, ça a coupé net. On sentait bien que, voilà, c'était fini. Non, si nous pouvions laisser au Saint-Esprit continuer à être le chef d'orchestre pour la louange, hein, il nous conduit, et que si l'homme commence à prendre la main sur ce temps qui est bien vécu, waouh, ça coupe. Ça pour dire le côté charnel, le côté de l'homme qui prend. Non, laissons si possible à être sensible à l'esprit pour le laisser nous conduire. Et ça fait plaisir aussi au Seigneur. Encore dans ce fait de faire plaisir à Jésus, qu'est-ce que cela produit? Ça produit du fruit. Donc on n'est pas sur le côté la lettre ou l'homme, mais c'est l'Esprit de Dieu qui prend le relais avec tout ça, le fait d'aimer toujours Jésus, de lui obéir, eh bien ça produit du fruit. Le fruit du royaume au milieu de son peuple. La seule manière de porter du fruit qui manifeste la vie du royaume de Dieu en chacun de nous est d'aller à la source qui s'appelle Jésus. Le Saint-Esprit fera le reste. Quand il commence une œuvre, il l'achève dans notre vie. Et j'aimerais dire, en conclusion, n'est-ce pas merveilleux de comprendre cette révélation qui est d'abord de faire plaisir à Jésus pour tout ce que nous pouvons vivre, de désirer de faire plaisir au Seigneur. Ainsi, tout ce que nous ferons, nous le ferons pour la gloire de Dieu. Et rappelez-vous, quand Dieu a parlé la troisième fois, s'est fait entendre, qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est dans ce but qu'on fait plaisir à Jésus pour faire quoi? Il dit une chose. C'est Matthieu 12, verset 27 à 30. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père? Délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Donc, le Père attache une grande importance à glorifier son Fils, Jésus-Christ, sur la terre. Eh bien, il veut le glorifier encore, il dit. Eh bien, c'est à travers notre vie. Alléluia. Faisons plaisir encore à Jésus. Et c'est sur ce moment-là qu'on va prier. Nous voulons faire plaisir à Jésus. On va se lever et dire, Seigneur, tu connais dans ma vie ce qui peut être encore des obstacles. Je sais que parfois je succombe à certaines tentations, mais que je voudrais me relever pour entrer dans la dimension, dans l'appel que tu m'as appelé, et je ne veux pas perdre cet appel. Frères et sœurs, il y a beaucoup qui ont perdu, qui sont arrêtés en chemin, parce qu'ils n'ont plus voulu faire plaisir à Jésus. Ils ont bien commencé, ils ont mal fini. Et le Seigneur voudrait que nous puissions ne pas perdre de temps Il y a un enjeu phénoménal, il y a des gens qui se perdent dans la nature. Et arrêtons de nous regarder notre nombril, mais regardons à Jésus pour qu'il nous donne d'entrer dans ce qu'il nous a appelé chacun et chacune. Il nous a appelé dans son service. Ne perdons pas de temps parce que les temps sont comptés. Jésus va bientôt revenir et il faut se préparer. Et c'est pourquoi faisons plaisir à Jésus d'arrêter de nous regarder, de regarder nos bobos, parce qu'il revient bientôt, mais qu'il y a des âmes qui se perdent. Et nous voulons faire plaisir à Jésus pour obéir à sa volonté. Alors, je m'unis avec vous pour dire, Seigneur Jésus, s'il te plaît, donne-nous de te faire plaisir et de t'obéir, de renoncer à notre vie et que nous faisions la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit et qu'il soit vraiment glorifié. Amen. Seigneur Jésus, tu es le chef de l'Église. Et ce que j'ai apporté est selon ta parole, et c'est toi qui dois être glorifié, non pas moi, ni aucun de nous. Tu sois glorifié dans tout ce que nous faisons. Il est vrai que nous faisons parfois des choses maladroitement, mais tu es prêt à nous relever, tu es prêt à nous aider, et nous ne voulons pas plus perdre de temps. Il y a des âmes qui sont à sauver et tu veux faire de nous des témoins et des témoins qui te sont agréables. Seigneur, aide-nous à t'obéir, aide-nous à ne plus nous arrêter, aide-nous à te glorifier chaque jour. Et nous voulons faire comme le Père, te glorifier Jésus et continuer à te glorifier avec l'aide de ton Saint-Esprit. Et merci pour ta parole qui nous donne l'orientation, qui nous donne ce cadre pour la gloire de ton nom. Merci Jésus de nous aider à te faire plaisir chaque jour. Amen.